Bienvenue sur RFI.
RFI. Bienvenue sur RFI. Par satellite.
Sur le câble.
Sur internet.
En FM.
En onde moyenne.
En onde courte.
Écoutez RFI.
Sur tous les continents.
Asie.
Asie.
Amérique.
Amérique.
Europe.
Europe.
Afrique.
Afrique.
Océanie.
Océanie.
Chaque jour.
Chaque jour.
RFI vous parle en 20 langues.
RFI vous parle en 20 langues.
Pour connaître toutes nos fréquences.
RFI.fr.
RFI, la radio du monde.
Amis de la planète, bonjour. Pour ce dernier Fréquence Terre, je vous propose de partir au Sahel, dans la frange sud du plus grand désert du monde, le Sahara, plus particulièrement au Mali, en pays Dogon, à l'écoute des populations paysannes. Des regards de l'intérieur, d'hommes, sur leur milieu, sur la nature environnante et sur un monde en pleine transformation. Avec tout d'abord ce témoignage de Modibo Karambe, le fils du chef de village de Biandiougou, un très gros village isolé dans la montagne, uniquement accessible à pied au cœur du pays Dogon, sur une traduction faite sur place par Moussa Maïga.
Modibo Karambe, fils du chef de village de Biandiougou, à 6 km du chef-lieu d'arrondissement Gundaka, qui n'a pas moins de 1000 ans et qui a aussi plus de 1200 habitants. Mais si on compte les hameaux alentours et les petits villages, qui ça va jusqu'à 3000-4000 habitants. C'est un village maraboutique, donc il y a un saint qui s'est installé là et ça a donné une certaine renommée au village.
La
période la plus dure, c'est la saison sèche. Okay, ce sont des paysans, ils ne connaissent que l'agriculture. Et ces dernières années, la pluviométrie est très insuffisante. Et ça veut dire que la production ne suffit pas pour soutenir les besoins alimentaires des populations pendant l'année. La principale culture, c'est le mil. Donc le mil est la principale céréale cultivée dans ce village. Et puisque la pluviométrie est insuffisante, chaque année, le village accuse un déficit céréalier. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est l'accessibilité du village par rapport au centre d'approvisionnement. Comment le village doit s'y prendre pour amener jusqu'au niveau du village, donc les céréales, les stocks qu'ils achètent au niveau de Sévaré, au niveau de Sang, au niveau de Koutiala. Bon, donc c'est seulement par des charrettes ou bien à dos d'âne qu'ils arrivent à transporter les céréales jusqu'au niveau du village. Parce que le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas seulement les populations du village qu'ils nourrissent, mais c'est tous ces petits villages ou aux alentours du village qu'ils supportent alimentairement. Et ces problèmes de déplacement ont des répercussions sur d'autres aspects de la vie au niveau du village ici, notamment sur le plan de la santé, parce que bon, quand il y a un malade ici, ils ont toutes sortes de difficultés pour l'évacuer sur les centres sanitaires à Sévaré ou bien à Mopti. Et donc, ce problème d'accès du village, en réalité, bon, ça réjaillit sur beaucoup d'autres aspects qui compromettent même le développement économique de leur localité. Le troisième problème, c'est un problème d'eau. Donc il y a un réel problème d'eau ici parce que pendant toute la saison sèche, c'est le maraîchage qui constitue la principale activité et des hommes et des femmes et des enfants. Et puisqu'il n'y a pas d'eau, donc le maraîchage même souvent se trouve compromis parce que c'est la deuxième source de revenus des villageois après la culture du mil. Ils insistent sur le problème d'eau parce que sans eau, aucun développement ne peut se faire. Parce qu'ils sont sur une colline et les puits sont tout autour du village, au niveau dans la plaine. Et assez souvent, les puits là arrivent à sec et il y a un très grave problème d'approvisionnement. Les femmes sont obligées de partir jusqu'à 6-7 kilomètres pour chercher de l'eau. C'est réellement un problème. Ils ne savent pas comment résoudre ça.
Ah, d'accord.
Bon, il donne une réponse très précise. Il dit que actuellement, la population a augmenté, le bétail a augmenté et la pluviométrie diminue d'année en année. Donc forcément, ça va amener un problème d'eau. Que le monde, tout autour d'eux, le monde est en train de changer parce que les traditions, dans le temps, personne ne voulait amener son enfant à l'école, mais ils comprennent aujourd'hui que bon, personne ne peut échapper à ce qui est en train de se passer autour de lui. Donc, ils sont obligés d'amener leurs enfants à l'école. Et le changement qui s'opère autour d'eux fait aujourd'hui que aussi les jeunes gens, une fois qu'ils vont à Bamako, non, ils adoptent d'autres modes de vie, ils reviennent avec des magnétophones, ils reviennent avec d'autres appareils. Donc il y a tout un changement qui est en train de s'opérer, il y a tout un nouveau mode de vie qui est en train de s'installer au niveau des villages même auxquels eux qui sont les vieilles personnes, ils comprennent pas beaucoup de choses. Mais ils se disent que peut-être que quelque part, c'est bon parce que ils savent qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre enfermé sur soi-même et que par rapport à leur tradition, ils vont prendre ce qui est bon et essayer de l'adapter à ce qui vient de l'extérieur. Mais maintenant, une fois que les jeunes gens vont en ville, ils viennent avec de nouvelles idées et puis ils disent non, bon, moi, je perçois les choses d'une autre manière. Bon, je pense que ce n'est plus comme ça que les choses doivent se faire. Donc, le deuxième point, c'est le fait que les influences là ont provoqué l'exode rural, quoi. C'est-à-dire que les jeunes gens, une fois qu'ils vont en ville, n'ont plus envie de rester au niveau village parce qu'ils ont adopté d'autres modes de vie qui ne sont plus compatibles avec la vie comme on le fait au village. Et le troisième point peut-être sur lequel il faut insister, c'est que de façon générale, bon, l'argent est en train de pénétrer même dans les campagnes et ils pensent que bon, dans tous les carrières, ne sera jamais comme avant. Les anciennes générations qui sont là au fil du temps vont disparaître. Et puisque les jeunes gens vont adopter de nouvelles idées, bon, ils pensent que les traditions peut-être un jour finiront par disparaître parce qu'il n'y aura plus personne pour les conserver. Face aux problèmes qu'ils rencontrent en ce moment, bon, peut-être une des solutions, c'est peut-être d'aller s'installer ailleurs. Mais que la vie, ce n'est pas seulement la recherche de nourriture. La vie, c'est la culture, c'est l'attachement à son terroir. Et que par rapport à ça, nulle part ailleurs dans le monde, ils ne peuvent trouver le plaisir qu'ils éprouvent en étant ici, dans le village de Bandjougou.
Réaction de M. Kanouté du ministère de l'Environnement du Mali à ce reportage.
Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis d'un village aussi. Et comme ce paysan, moi aussi, je ne reconnais plus mon village. Parce que quand j'étais jeune, hier seulement j'étais en train de discuter de cela avec des gens. Quand j'étais jeune, il y avait des forêts dans lesquelles, pour rien au monde, tu ne pouvais pénétrer. Parce que tu avais peur. Quand tu rentrais, tu savais que là-dedans, quelque chose pouvait t'arriver. Mais aujourd'hui, tout cet espace est complètement ouvert. Et donc, on ne reconnaît plus son paysage. Parce que les arbres qui sont là ont disparu. Les mares qui étaient là ont disparu. Les ruisseaux qui étaient là ont disparu. Il n'y a plus de repères. Donc, finalement, comme ce paysan, les gens d'un certain âge, 40 ans, 50 ans, de ce pays-là, qui ont vécu dans la campagne, quand ils retournent chez eux aujourd'hui, ils deviennent comme des étrangers. Et c'est pénible parce que c'est tout un souvenir qui disparaît. C'est toute une culture qui disparaît.
Moussa Maïga est un ancien éleveur de la région de Gao. Aujourd'hui, il aide les paysans à s'organiser au mieux pour survivre dans ces zones difficiles.
Qu'est-ce qui a changé fondamentalement avec les années dans ce paysage ?
Les disons qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, parce que je me souviens, quand j'étais encore jeune, bon, souvent dans l'après-midi, il y a des troupeaux de girafes, bon, qui peuvent atteindre 30, 40 girafes ensemble, qui viennent boire au fleuve et qui retournent en brousse. Bon, ça, c'était vers les années 68, 70. Aujourd'hui, on ne voit plus rien de tout ça. Donc, c'est très inquiétant et cela dénote de, vous voyez, de la rapidité de l'état d'avancement, donc du désert, et aussi de la détérioration de l'environnement, donc autour de cette zone. Et puis, en dehors de ça, bon, par rapport à la pluviométrie même, bon, il y a une très grande différence entre ces années-là et maintenant. Actuellement, bon, les pluies se font rares, elles sont très mal réparties dans le temps, et ce qui fait qu'assez souvent, il y a des déficits céréaliers au bout.
Parole d'Anko Angali, un paysan dogon qui fait de la formation dans la plaine du Sénou.
Traditionnellement, l'eau, Sidi Sénou dogon, c'est la vie même de tout un peuple. On l'appelle en dogon ni. Donc ni, qui est moyen guiné. Donc ni corolle, qui n'est pas. Qui n'est pas tout, ni. Donc, ce qui veut dire que la vie même, sans l'eau, il n'y a pas de vie. C'est ce que ça veut dire. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. Donc, ni koro, ni er koro.
Le Grand Paris qui est en train de gagner le Sahel, notamment avec le travail d'ONG comme Afrique Verte, c'est que le Sahel peut nourrir le Sahel. Sauf événements exceptionnels comme la situation actuelle où tout le monde attend avec anxiété de pouvoir faire la récolte avant l'arrivée de nuages de criquets qui sont actuellement en train de traverser le désert et dont l'arrivée est attendue très prochainement. Écoutons Mohamed Aïdara, le directeur d'Afrique Verte au Mali, sur cette agriculture sahélienne.
La problématique de tous les pays sahéliens de façon générale, c'est qu'on retrouve en gros deux grandes zones. Il y a ce qu'on appelle les zones déficitaires, où il n'y a pratiquement pas de production liée aux facteurs agroclimatiques qui sont très difficiles, et aussi des zones excédentaires où il y a des excédents céréaliers, des quantités de céréales disponibles. Mais tout le problème de ces pays sahéliens, c'est que les échanges sont très difficiles entre les différentes zones du fait des problèmes d'infrastructure routière. Il n'y a pratiquement pas de route, même si ces routes existent, sont souvent dans des conditions déplorables. Les moyens de communication sont très peu développés, qui fait qu'il y a très peu d'échanges entre les différentes zones. Donc, l'approche de l'ONG Afrique Verte consiste à imaginer un schéma de mise en relation offre-demande pour permettre une bonne répartition des céréales, parce qu'en gros, quand on prend ces pays de façon générale, en faisant des estimations pour production, population, on se rend compte que si les céréales étaient très bien réparties, on pourrait aboutir à l'autosuffisance alimentaire de ces pays. En tout cas, en partie, il faut le reconnaître. Bon, je dis bien, il y a des cas de catastrophes naturelles où par une année de sécheresse peut avoir des poches où on est obligé de faire appel à l'aide alimentaire. Mais en gros, dans les conditions normales, on peut quand même pallier un peu aux problèmes alimentaires en essayant de favoriser une meilleure répartition des céréales entre les différentes zones, parce que ces pays sont laissés à la merci des opérateurs économiques qui font de la surenchère, et on trouve des différentiels de prix entre zones souvent qui ne s'expliquent pas. Quand on fait tous les calculs économiques, on se rend compte que souvent c'est très loin de la vérité, quoi. Donc Afrique Verte essaie justement de trouver des réponses à cela pour que les gens puissent être soulagés. Donc objectif principal, c'est d'aboutir à l'autosuffisance alimentaire. Comment? Par le système de mise en relation de l'offre et de la demande, en mettant à disposition des organisations paysannes qui travaillent avec nous un certain nombre d'outils que sont les bourses céréales et la formation.
Comment est née Afrique Verte?
Bon, disons que l'Association de solidarité internationale d'Afrique Verte est née en France suite aux grandes années de sécheresse survenues au Sahel dans les années 73, 74 et 83-84. Il y a certaines associations en France
constitue quelques terres des hommes, frères des hommes et peuples solidaires. Et après, se sont joints le comité catholique contre la faim pour le développement CCFD et l'association française des volontaires du progrès, l'AFVP. Donc ce sont ces cinq associations qui ont décidé d'entreprendre en France une action de lobbying. Au départ, l'objet c'était de faire des actions de lobbying pour sensibiliser l'opinion publique européenne sur un phénomène qui s'est passé, parce qu'après les grandes années de sécheresse, on avait comme l'impression en Afrique que le continent, en Europe, disons, que le continent africain était un continent où on ne pouvait rien développer, que ces gens n'avaient besoin que de l'aide suite aux grandes années de sécheresse. Donc l'Afrique n'avait pas du tout une très bonne presse en Europe et les gens avaient un regard très critique et vraiment très négatif sur l'Afrique. Donc l'objectif de ces cinq associations était de changer un peu l'image catastrophique de l'Afrique auprès de leurs concitoyens en Europe. Donc le mouvement est parti comme ça et puis finalement ça aboutit par une pression au niveau du ministère français de la coopération pour que les 10% de l'aide alimentaire en France soit transformée en monnaie pour permettre des échanges de céréales. En se fixant sur une problématique, parce qu'après les grandes sécheresses de 83, c'est qu'il y a eu un regain de pluviométrie. Donc on a vu qu'il y avait eu la pluie et qu'on constatait que au Sahel, il y avait quand même des zones et des poches d'excédents céréaliers qui pouvaient à la limite résoudre les problèmes alimentaires. Donc c'était de mettre la pression sur l'Europe, pourquoi continuer à déverser sur le continent de grosses quantités de céréales au moment où il y avait une production locale qu'il fallait favoriser. Donc finalement ça a donné naissance à une ONG, une organisation non gouvernementale, dont les premières actions remontent en 87 au Niger, en 90 au Burkina et 94 au Mali.
Évaluer la situation céréalière et les insuffisances alimentaires possibles, Afrique Verte dispose d'un réseau d'intervenants qui circulent dans toutes les régions du pays et en particulier dans les villages les plus reculés. Écoutons pour conclure P, un paysan de l'organisation qui parcourt en permanence toute une partie nord du Sahel malien avec sa mobylette, dans le meilleur des cas, et le plus souvent à pied quand il n'y a plus d'autres solutions, comme dans les montagnes pierreuses du pays d'Ogon.
Il y a 10 ans de cela, il y avait nos champs, on cultivait les champs dans certaines zones. Et dans d'autres zones, si on cultivait les champs, ils étaient inondés. Dans les zones qui étaient inondées maintenant, c'est maintenant là-bas où on cultive. Et puis, rarement, la pluviométrie atteint maintenant 1000 mm d'eau. Donc, vraiment, personnellement, moi, c'est frappant pour moi. Et la dégradation progressive même de l'environnement dans notre pays.
Il n'y a plus de gibier non plus.
Bon, les gibiers sont rares. Et moi, je le dis parce que lors de mes tournées, je peux parcourir 100 km, sinon plus de 100 km. Je ne verrai même pas le lapin à plus forte raison, une biche en cours de route. Et les oiseaux sauvages, je vais dire par là, les perdrix, les pandades, bon, on en voit rarement, quoi. Donc, ce qui est très inquiétant.
Les gens ici se rendent compte de la dégradation de l'environnement?
Mais les gens, ils se rendent compte. Mais que voulez-vous? Bon, peut-être on le prend pour un fait naturel, quoi.
Ainsi se termine votre magazine de l'environnement. Un grand merci à tous et plus particulièrement à toute l'équipe, Simon De Creuse, Thomas Ferrière et Arnaud Jouve, que vous retrouverez dès demain sur de nouveaux programmes. Et pour la planète, comme on n'en a pas de rechange, essayons de la préserver. Salut.